Bonjour, bon après-midi. Alors donc on va animer une table ronde autour de la thématique des détectives de l'étrange avec un très beau parterre. Je suis ravi d'être modérateur de cette table. Alors pour commencer, à ma droite, Marc Maduro, grand connaisseur de la littérature populaire, principalement 19e et 20e, aussi bien policière que d'aventure, essayiste, traducteur, anthologiste aussi, bref, quelqu'un sur qui on peut assurément compter pour débroussailler cette notion de détective de l'étrange. À ma gauche, et en commençant par le fond, alors Richard Desnolan, là aussi des talents multiples, écrivain tout d'abord, un grand novelliste, toutes mes préférences vont à l'auteur comme novelliste, grand auteur, anthologiste, directeur de revue. Il a participé notamment au lancement de grandes revues du genre comme Crépuscule et récemment Wendigo,
oui.
C'est ça. Scénariste de bande dessinée et bien sûr spécialiste aussi de la question. Enfin, Fabrice Bourland, certainement grand connaisseur du genre, puisqu'il le réactive brillamment à travers un certain nombre de romans, tous assez récents, commençant par en 2008, Le fantôme de Baker Street, c'est le premier, qui est une admirable lecture et à la fois du genre et de Conan Doyle. Et puis surtout, on lui doit un duo que je vous conseille vraiment, c'est chez 10-18 de détectives qu'on retrouve donc dans cette œuvre et dans les suivantes, un duo d'enquêteurs qui sont Andrew Singleton et James Trelawney. James Trelawney comme le pirate ou comme John Trelawney
peut-être, hein. C'était pas
prémédité. Oui, peut-être. Et aussi, et on en parlera rapidement, on va aborder ça vite. Une relecture du chevalier Charles-Auguste Dupin, le détective créé par Edgar Allan Poe, dans une aventure inédite sur le meurtre, ou la mort, en tout cas toujours nébuleuse, de Gérard de Nerval. Alors, la première question, en fait, ce n'est pas une, je vais demander à chacun de poser quelques repères simples historiques. Selon vous, quand apparaît dans les détectives la notion de détective de l'étrange? Alors, Marc, peut-être?
Moi, j'ai carrément pris quelques petites notes historiques. En fait, historiquement, donc, il y a eu deux grandes périodes, l'une qui correspond à peu près au 19e siècle, à partir de 1830 jusqu'à la fin du 19e siècle, qui a correspondu à ce qu'on a appelé les médecins enquêteurs de l'étrange, parce que là, il fallait, à l'irrationalité des événements fantastiques, il fallait opposer la rationalité du scientifique local, souvent c'était un médecin. Donc il y a un auteur anglais qui s'appelle Samuel Warren, dans les années 1830, qui a créé un médecin sans nom, parce que son nom n'apparaît jamais, sauf avec une initiale et trois petites étoiles ou des tirets. Là, en français, ça a été traduit sous le nom de Mémoire d'un médecin, et plus connu, en 1872, il y a Sheridan Le Fanu qui a créé le Martin Eselius, le docteur Martin Eselius. Et encore jusqu'à la fin du 19e, il y a eu des auteurs anglais qui ont créé d'autres médecins détectives. Et comme vient toujours la fin du même siècle, il y avait de plus en plus de créations de sociétés de recherche psychique, des clubs occultistes, des revues occultistes, des revues spirites qui avaient de plus en plus de succès. On a vu apparaître, vers vraiment la toute fin du 19e siècle, ce qu'on a appelé les chasseurs de fantômes. Enfin, souvent, c'était juste un fantôme, c'était des enquêteurs du surnaturel en général, mais souvent, ils chassaient des fantômes. Et le tout premier, ça a été un certain Flaxman Law, créé par les Heron, mère et fils, qui a été créé en 1898. Et une dizaine d'années plus tard, il y a eu les deux principaux chasseurs de fantômes de la littérature. C'était d'une part John Silence, d'Agallon Blackwood, et Thomas Carnacki, de William Opochon. Ça a été vraiment que c'était les deux grandes dates. Et à partir de là, les pulps, tous les récits populaires sont un peu emparés du thème. Et ça fait qu'on en a retrouvé tout au long des années 20, 30, soit avec des enquêteurs du surnaturel pur, par exemple des détectives qui voyaient les coupables dans des rêves, par exemple, ou des astrologues qui prédisaient ce qui allait se passer ou ce qui s'était passé, ou même des redresseurs de tort, des justiciers plus généralistes comme Doc Savage ou The Shadow qui ont eu aussi des enquêtes un peu extraordinaires. Donc ça a été vraiment les deux grandes périodes. De l'enquête de l'impossible, des enquêteurs de l'impossible.
Richard, selon toi, qu'est-ce qui fait que d'un détective au début du genre qui a des résolutions rationnelles, avec des problèmes qui trouvent leur solution logiquement, comment se fait-il que certains auteurs vont ressentir le besoin de s'aventurer dans l'irrationnel et le fantastique?
Je pense que c'est parce que c'est plutôt le fantastique et l'irrationnel qui sont venus les titiller d'une certaine manière, puisqu'en fait, avec l'apparition du roman gothique, des histoires de vampires, de fantômes au début du 19e siècle, et on est aussi à une époque où les premières esquisses de détectives standards apparaissent, avec le Chevalier Dupin ou avec dans des romans comme Jean Diable de Paul Féval. Ou Gaborio, et donc il y a une conjonction d'intérêts, quoi. Je veux dire, d'un côté il y a un genre qui commence à s'installer, c'est le roman policier, et puis à côté de ça on a un genre qui marche très bien, c'est le gothique, et qui est venu d'Angleterre et d'Allemagne et qui a envahi un peu toute la scène européenne, et donc que ça commence à titiller des auteurs comme Samuel Warren, effectivement, qui est vraiment le grand ancien avec ses histoires de son médecin anonyme, parce qu'en fait Samuel Warren dans ses nouvelles avec son médecin, il y a des nouvelles qui sont pas du tout fantastiques, c'est de temps à autre il y a l'apparition d'un chien fantôme, de ci, de ça, il y a même des nouvelles comme une sur les résurrectionnistes, on aurait pu penser qu'avec un truc pareil c'était fantastique, pas du tout, c'était quelque chose qui avait rapport avec l'épidémie des déterreurs de cadavres pour les revendre aux universités et aux écoles d'anatomie qui sévissaient en Angleterre. Donc Warren, on voit bien que c'est un coup oui, un coup non, quoi. Et puis petit à petit, ça s'installe. Et c'est vrai que c'est à la fin du 19e que les choses commencent à se mettre en place avec des vrais enquêteurs spécialisés, donc comme les Jackson Lowe. Il y en a un autre, c'est un auteur que j'aime bien, puis qui n'est pas connu, mais qui a sa place là-dedans, c'est Victor Rousseau. Parce que Victor Rousseau, il a fait une série avec, en 1909-1910, aux États-Unis, qui était publiée dans les journaux, et qui a été reprise beaucoup plus tard dans Weird Tales. Et comme personne ne connaissait les premières éditions, on a pensé que c'était un suiveur. Et en fait, les aventures du chirurgien des âmes, de Ivan Brodsky, sont parmi les premiers vrais détectives de l'occulte. Alors lui, c'est avec la réincarnation, c'est son truc. C'est beaucoup basé, ça tourne autour de ça, ça intéressait l'auteur. Donc on a des séries comme ça, entières, qui apparaissent dans les journaux. Et dans des journaux, donc des quotidiens, quoi. Il faut des éditions du week-end, des choses comme ça. Donc là, il y a ça s'installe comme ça. Mais c'est, ils se sont, le policier et le détective de l'occulte, finalement, se sont trouvés naturellement, quoi. C'est fin 19e, quoi.
Alors, l'archétype du détective, c'est assurément Sherlock Holmes. Dans les aventures de Sherlock Holmes, il n'y a jamais d'éléments totalement étranges, parce que ceux qui s'en rapprochent le plus, le vampire du Sussex ou le chien des Baskerville, ont une résolution logique, rationnelle à la fin. Et pourtant, Conan Doyle, l'écrivain, l'homme, lui, a été plus que tenté par l'irrationnel et l'imaginaire. Alors, Fab, justement, dans ton premier roman, il y a une relecture remarquable de la notion de détective de l'étrange, et on sent cette hésitation dans tes passages et dans ton récit entre la tradition rationnelle et l'intrusion du fantastique.
Tout à fait. Et juste pour rebondir à ce que disait Richard, c'est que le lien entre policier et fantastique, à mon avis, il est même des origines du policier. Parce que qui a inventé, entre guillemets, le personnage du détective amateur qui résout avec brio les enquêtes, c'est Edgar Poe, quand il invente en 1830 et quelques son personnage du Chevalier Dupin. Il écrit donc le double assassinat dans la rue Morgue, la lettre volée, le meurtre de Marie Roger, et en trois nouvelles, il fixe pratiquement pour l'éternité un personnage qui va devenir le prototype de tous les grands détectives de la littérature policière.
En posant déjà l'éthique.
Avec la nouvelle qui est écrite par un narrateur extérieur, qui donc est dans l'admiration totale de ce détective, hors normes, qui a même un côté assez surnaturel, c'est-à-dire qu'il a une façon de résoudre les enquêtes qui sont, enfin, qui émanent d'une intelligence tellement, tellement incroyable qu'on en est à la limite de l'humain. Donc déjà, dès les trois premiers textes de la littérature policière, on est à la lisière de quelque chose qui n'est pas loin du fantastique, sachant qu'en plus, Edgar Allan Poe est quand même un écrivain à la base de littérature fantastique. Donc, un auteur de littérature fantastique invente, en quelque sorte, le genre, c'est un peu un raccourci en disant ça, mais invente le genre de la littérature policière. Et quand on dit, pour revenir à ce que tu disais, que le deuxième grand écrivain qui va poser les jalons du roman d'enquête policière classique, c'est Conan Doyle, dans les années 1870-1880, quand il démarre, qui est lui-même un écrivain de littérature fantastique, c'est-à-dire que une grosse partie de son œuvre sont aussi des contes fantastiques. Et puis surtout, c'est quelqu'un qui a été travaillé par le spiritisme, et ça c'est le sujet du premier bouquin de la série, Le fantôme de Baker Street, parce que c'est quelqu'un qui s'est lancé dans le spiritisme très tôt. Il a perdu, si je me souviens bien, un petit frère, un frère.
Il a perdu un frère de la grippe espagnole, juste après la guerre. Et peut-être un fils.
Et donc, il avait commencé le spiritisme avant ça. Et à partir du moment où il y a ces morts qui ont commencé à rendre un petit peu son rapport à la mort plus complexe, il a vraiment versé, à temps complet dans le spiritisme, tant ici bien qu'à la fin de sa vie, il écrivait très peu. Il était conférencier à travers le monde pour être le chantre de la philosophie, comme disait Spirit. Donc voilà encore un exemple d'écrivain dit de littérature policière qui a posé un personnage extrêmement rationnel qui, en réalité, par bien plein des aspects, n'est pas si rationnel que ça. Et c'est vrai qu'il n'y a que trois textes dans son corpus holmésien qui peuvent frôler le fantastique. En réalité, dans la façon dont Sherlock Holmes résout ses enquêtes, on est quelquefois à la limite du surhomme ou de l'élément surnaturel.
Alors, cette hésitation entre le rationnel de Conan Doyle, l'homme, et son détective, et d'un côté, d'un autre côté, le basculement pour des raisons personnelles dans l'irrationnel, rationnel et irrationnel dans la figure du détective et du détective holmésien, on est obligé de penser forcément à Auguste Derleth et Solar Pons. Alors, en quelques mots, lorsque Arthur Conan Doyle annonce qu'il n'écrira plus Sherlock Holmes, un jeune Américain qui a 19 ans ose le contacter. Il lui dit « pas de problème, je reprends ». Il est bien sûr écarté par Conan Doyle, et on le comprend, mais ça va donner lieu à Solar Pons. Et je pense que tu as dû faire dans la nouvelle relecture critique, un des premiers textes sur Solar Pons, dans la nouvelle... Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus, puisque là, rationnel et étrange se mélangent plus facilement?
C'est quand même pas une réécriture, mais c'est une grosse inspiration du Sherlock Holmes classique.
Avec des éléments surnaturels.
Avec des éléments un peu plus surnaturels, mais c'est quand même, on tombe quand même pas dans l'enquêteur de l'impossible ou de surnaturel réellement.
Il y a quand même au moins il y a un voyage dans le temps.
Nettement plus orienté. Donc il y a aussi des éléments un peu irréalistes, surréalistes, qu'il aime bien apporter, mais c'est quand même pas l'enquêteur de l'impossible tel que je le conçois réellement.
D'accord. Alors, justement, sur ce que peut être l'impossible ou pas, Richard, là, c'est le... Je m'adresse au front d'or. Comment tu analyserais le fait que la raison, tout à coup, s'intéresse à l'étrange? Est-ce que c'est une volonté de tout contrôler de l'époque, rationnelle, scientifique, avec ses grands empires anglais, la jeune nation dynamique américaine? Est-ce que c'est une volonté pour la raison de contrôler même ce qui n'est pas raisonnable? Ou est-ce le contraire, l'étrange, le mystérieux qui résiste?
Moi, je dirais plus l'étrange et le mystérieux qui résistent.
Je n'attendais pas
mal. Oui, non, mais parce qu'en fait, justement, on est dans une ère de technologie conquérante. La science, il y a des gens qui écrivent que la science en a plus pour 10 ans à comprendre l'univers entier, des choses comme ça. Et le problème, c'est que, comme toujours, c'est qu'il y a une partie particulièrement résistante de l'univers qui ne se laisse pas... Et donc ça intéresse beaucoup, les recherches psychiques intéressent énormément, que ce soit en Angleterre, en France, en Allemagne, au moins autant que maintenant. Il y avait même plus de scientifiques qui s'y intéressaient que maintenant. Et donc, c'est une attirance, je veux dire, cette part de mystère de l'univers ne pouvait que finalement intéresser une époque qui était d'une technologie victorieuse et tout comme ça. C'était pas la face noire, mais c'était un peu ça, quoi. C'est normal que des auteurs... Mais les auteurs de fiction relayaient un intérêt qui était, comme toujours, quand on fait de la littérature populaire, finalement, c'est qu'on relaie un intérêt qui est déjà populaire. Quoi. Je veux dire, ça, on le voit bien même maintenant. Quoi. Je veux dire, quand on voit, par exemple, la Bitlit, c'est l'intérêt après nourri, le fait qu'on en fait de plus en plus et tout. Donc je pense que moi, je vois ça un peu comme ça. Quoi. Je veux dire, c'était pas la... La raison, c'est pour lutter contre la raison triomphante de ça. Mais ça s'invitait tout seul, c'est toujours pareil, du moment que. Puis ça permettait de mettre une dose aussi supplémentaire de mystère dans les intrigues et tout. Parce qu'un détective de l'occulte, il est supposé employer les mêmes méthodes qu'un détective normal, sauf qu'il est à la place de la science, par exemple, de la police scientifique, parce que. C'est de la magie, quoi. Mais ça fonctionne exactement pareil, quoi. C'est quelque chose de très strict, finalement. Si vous ratez un truc dans une invocation d'un démon, vous pouvez avoir vraiment pire que ce que vous attendiez. C'est comme la bombe atomique, il faut vraiment mettre ce qu'il faut, quoi, avant que ça pète. Quoi.
D'ailleurs, chez Lovecraft, parmi les gardiens de la raison, c'est pas un hasard, ce ne sont pas des détectives, ce sont des universitaires. L'institution, pour une bonne part, c'est par
oui,
exemple...
c'est ça. Voilà. C'est des universitaires de choc. Hein, ils sont considérés comme des fous furieux par leurs collègues.
Oui, tout à fait.
Et l'université de Miskatonic, bon, voilà.
On
a envie d'avoir... moi, sur mon Facebook, j'ai mis que j'avais fait mes études de détective de l'occulte à l'université de Miskatonic. Ce qui était assez rigolo, parce que Facebook a un détecteur des anciens élèves. Et à un moment donné, le programme m'a mis à côté. Est-ce que vous connaissez vos anciens condisciples ? Et je me suis aperçu qu'il y avait d'autres gens comme ça qui avaient mis ça.
Ah, c'est très bien.
Ouais, ça, c'est un rêve. Ça, tout le monde aurait, tout amateur de fantastique aurait voulu suivre des cours à l'université de Biscay.
Bien sûr.
Non, ça, c'est bien qu'il y ait des départements qui m'avaient l'air franchement dangereux. Mais ça, c'est. Oui.
Alors, Fabrice. Qu'est-ce qui motive un écrivain pour reprendre une époque et un genre, reprendre bien en plus, ce sont de superbes à la manière d'eux. Qu'est-ce qui motive un écrivain de reprendre une époque, un genre, alors qu'on aurait pu imaginer des détectives de l'étrange aujourd'hui, adaptés à notre... Qu'est-ce qui fait que tu as choisi et que tu as réussi ce choix de le situer dans les années 30.
Bon, d'abord, l'idée, moi, c'était de faire un bouquin. C'était Le fantôme de Baker Street. Il s'est passé ce qui arrive à quelques auteurs. Envoyer un manuscrit par la poste chez un gros éditeur, parce qu'au départ, on essayait toujours les gros éditeurs. Et on a la surprise que l'éditeur vous rappelle en disant « On aime vraiment beaucoup ce que vous avez fait. Est-ce que vous pourriez nous faire une série comme ça, reprendre vos personnages et leur faire vivre d'autres aventures ?» Bon, ben, écoutez, d'accord, on va s'y coller. Donc, c'était un petit peu, je dirais pas forcé, mais en tout cas c'est le hasard qui a voulu que pour le fantôme, donc celui que lui j'avais vraiment prémédité dès le départ, c'était surtout un amour de la littérature fantastique classique, parce que j'adore, moi j'ai baigné là-dedans depuis que je suis ado, quoi. J'avais lu tous les grands classiques, les Dr. Jekyll et Mr. Hyde, le Dracula de Bram Stoker, Carmilla de John Sheridan Le Fanu, j'en passe et des meilleurs. Et donc je voulais faire un bouquin, et en tout cas qui parle de tout ça, et en même temps qui parle aussi des auteurs, parce que je suis un peu comme un ado qui a du mal à se guérir et qui aurait voulu rencontrer de son vivant les auteurs qu'il a aimés. Et je me suis rendu compte qu'un bon moyen de faire rencontrer les auteurs que j'aurais aimé rencontrer, c'était de faire tourner les tables à ma manière et écrire un bouquin. Un polar historique fantastique, c'était une bonne façon de tourner les tables, de les faire tourner les tables, et de rencontrer les auteurs que j'aurais eu envie de côtoyer. Donc Conan Doyle, Bram Stoker, etc. Dans le deuxième, Les Portes du Sommeil, j'ai eu une grande période comme ça où j'étais fou amoureux des surréalistes, Breton et consorts. J'aurais aimé être à Paris dans les années 30, au moment où, où tous ces gens se réunissaient Place Blanche à Paris. Et je me suis dit, voilà, j'aimerais écrire un roman qui se passe dans ce cadre-là. Et à un moment, je rencontre André Breton et je lui fais dire des choses. Et en l'occurrence, je lui sauve même la vie. Encore plus fort. Et ça, il n'y a que les écrivains qui peuvent se permettre ça. Donc je vais à fond dans ce... principe qui est de rencontrer les gens que j'aurais, j'aurais eu envie de rencontrer, et puis surtout de remettre au goût du jour ce sous-genre, la littérature policière, qui n'est plus tellement visitée de nos jours, détective de l'étrange, alors qu'il est justement, bizarrement, à travers les séries. Parce que, c'est pour ça que je ne voulais pas faire maintenant ce que tout le monde fait maintenant à la télé, c'est-à-dire que quand j'avais rencontré les commerciaux chez 18, ils m'avaient dit « oui, ça va super marcher ». C'est dans l'air du temps. J'ai dit oui, mais attention, parce que c'est de la littérature classique, ça se passe au 19e, début du 20e. Et eux, ils avaient en tête effectivement le fait que les détectives de l'étrange, on ne les appelle plus comme ça, mais il y a plein de séries américaines, les médiums et compagnie, où en fait les détectives sont toujours, ont des pouvoirs surnaturels, ou en tout cas sont en contact avec des gens qui ont des pouvoirs surnaturels, où ils enquêtent sur des événements qui ont un rapport plus ou moins lointain avec le surnaturel. Donc aujourd'hui, c'est à la limite les séries américaines qui ont repris et qui ont remis au goût du jour ce sous-genre qui était au départ un sous-genre de la littérature très particulier et uniquement en général écrit par les anglo-saxons. Il y a quelques français, mais on est quand même minoritaire.
Tu me facilites la transition parce qu'effectivement, après avoir passé un temps à rappeler les origines du genre, Marc, par exemple, comment se fait-il que en effet, la notion de détective de l'étrange, on la retrouve plutôt maintenant à la télévision. Et déjà, est-ce que tu trouves qu'il y a une filiation entre les détectives de l'étrange tels qu'on les concevait au début du XXe et ceux que l'on voit aujourd'hui dans l'écran ?
Déjà, je dirais qu'il n'y a pas seulement la télévision. Je trouve au contraire que les détectives de l'étrange ont carrément envahi non seulement la littérature, mais surtout la bande dessinée. Parce que depuis 15-20 ans, il y a eu plusieurs modes. Il y a eu la fantasy qui a fait un énorme boom. Il y a le steampunk qui a été créé, avec Ken Barrier qui nous en a parlé ce matin. Il y a donc l'engouement pour tout ce qui est victorien, notamment le polar victorien. Et tout ça a amené en BD un énorme boom, notamment soit des émules de Sherlock Holmes ou de Darryl Dixon, notamment Richard qui a écrit des suites des aventures d'Harry Dixon, il y en a plein d'autres. Il y a des nouveaux Sherlock Holmes, si on peut dire, de nouvelles aventures. Il y a eu Carl Cross, il y a eu Cliff Burton, il y a eu Dick Harrison, donc ça c'est le détective classique.
Quelques temps déjà, Aleister Crowley aussi, qui est une bande dessinée.
Qui a dû avoir deux aventures, il y en a eu plein. Donc il y a aussi des détectives moins holmésiens, comme je crois qu'il y a les Arcanes de Mille et Minuit, qui est dans un espèce de monde à la fois de science-fiction et fantasy, qui est assez original. Et donc ça... Tout ce moment-là a envahi la BD de sa fantaisie IE par Y. Du côté de la télé, effectivement, c'est peut-être plus commercial. Souvent, c'est un peu la mode des consultants maintenant depuis une dizaine, quinzaine d'années. Maintenant, il y a toujours le ou la détective qui sont accompagnés d'un ou d'une consultante. C'est comme Castle, où la détective est accompagnée d'un écrivain, ou alors c'est un mentaliste comme dans un mentaliste. Et là, souvent, par exemple, Medium ou Ghost Whisperer, je ne sais plus comment ça s'appelle en français, souvent, c'est des consultants, mais ce n'est pas réellement des vrais détectives impossibles. Les vrais détectives, ça peut être aussi le couple du FBI et les X-Files, mais c'était un peu plus tourné vers la science-fiction, souvent. Il y a eu un grand ancêtre au début des années 70 qui était Kolchak, qui s'appelait en France Dossier Brûlant, où c'était un journaliste un peut-être brûlé qui était confronté à des cas strictement impossibles avec un chef qui croyait jamais les cas impossibles qu'il décrivait. Et finalement, il prouvait que c'était l'intervention de fantômes ou de monstres ou de malédictions. C'était un truc très intéressant, mais ça s'est un peu perdu. Par exemple, ils ont essayé de faire un remake il y a quelques années qui a connu qu'une saison. Donc tout, malheureusement, la télé n'a pas un grand succès. Souvent, ça ne dure qu'une seule saison. Par exemple, les Dust and Files, qui sont issus d'une série de livres, n'a connu qu'une saison. Il y a d'autres exemples comme ça. C'est pas forcément une recette garantie, c'est pas une panacée pour le succès. Mais c'est vrai que ça a envahi notamment la télé, mais aussi la BD ou même la littérature, toujours liée au mouvement steampunk, au mouvement polar victorien. Je trouve que ça a envahi vraiment tous les médias, sauf peut-être le cinéma, parce que c'est vraiment un thème qui demande pas mal de budget. Donc souvent, quand les producteurs s'y intéressent, ils n'ont pas le budget, et ça donne des films comme Constantine ou Dylan Dog qui ne sont pas spécialement intéressants. Donc on attend toujours d'avoir des classiques du cinéma, et pour moi, on ne les a toujours pas vus.
C'est dommage parce que dans le public, il y a un vrai spécialiste qui est Jacques Baudou, directeur de Vaumont. Jacques, il y avait eu aussi, je crois, dans la télé française dans les années 70, une série avec Pierre Vanek, Les Dossiers de l'Impossible. Les
Frontières de l'Impossible. Ah,
c'était bien.
C'était plutôt SF quand même.
D'accord.
Il y a eu une série fantastique.
Brigade des Maléfices.
Et la Brigade des Maléfices, bien sûr.
Qui était visiblement inspirée d'ailleurs d'une série anglaise qui est le Colonel March avec Boris Karloff.
Ah, oui.
Qui est en fait intermédiaire entre le cinéma et la télé, puisque c'était tourné en cinéma. C'était des épisodes d'une demi-heure et qu'on a diffusé en France en première partie de film, mais qui en Angleterre ont été diffusés sur les chaînes. Et bon, John Dixon Carr est un auteur qui a souvent été à la frontière
entre
le roman policier et le roman fantastique.
Mais La Brigade des Maléfices, c'est quand même beaucoup plus poétique. Il y avait une poésie à la française qu'on n'avait pas dans le Colonel March, dans les séries anglo-saxonnes.
Oui, tu as tout à fait raison. Mm. Ne serait-ce que parce que le personnage qui jouait Pommier était Léo Campion. Et Léo Campion, c'est un chansonnier avec une faconde. Et il se déplaçait en sidecar.
Il y a un épisode où ils arrêtent l'enquête, le temps de s'arrêter pour déjeuner, ils déjeunent un canard au sang. On n'imagine plus.
Il y avait toujours une distance un peu, parce que le vampire faisait des cases dans les banques du sang, etc.
Oui.
Le fantôme hantait un HLM, justement, parce que le HLM a été construit là où il a eu les tannées.
Il vient d'en rééditer.
Ils ont sorti le navire étoile.
Ah oui, très bien.
La première émission de science-fiction à la télé française. Et il y a Fantomas.
Et Fantomas.
Il y a les trois.
C'est trop intéressant.
Hélas, Fantomas, hélas.
Par contre, ce qu'on n'a pas dit, c'est que pendant très longtemps, le détective de l'impossible, ça a été essentiellement anglo-saxon. Donc on l'a dit à travers tous les noms qu'on a cités, il y a eu très peu de Français qui se sont intéressés. Finalement, c'est ces dernières années qu'il y a beaucoup d'auteurs, il y en a ici, qui se sont intéressés au thème. Parce qu'au début du XXe siècle, c'était souvent des amateurs du spiritisme, comme le docteur Wilm, ou des gens comme ça, qui n'ont pas laissé un grand nom. Ou alors c'était des auteurs de populaires, comme Maurice Lima, ou qu'est-ce qu'il y a eu ? Il y a eu Jean de La Hire avec son Antelope, qui prenaient leurs héros récurrents, qui étaient souvent des redresseurs d'auteurs ou des justiciers à tout faire, parce qu'on les voyait à la fois dans des récits sentimentaux, dans des aventures, dans des récits d'espionnage, et souvent ils devenaient détectives de l'impossible, détectives de l'étrange, comme ils auraient fait autre chose.
Donc, suivant les collections, ils apparaissaient. Voilà. Teddy Verano de Maurice Lima est un bon exemple. C'est un détective qui a commencé dans les années 30, et il a fini sa carrière en 75 avec la fin de la collection Angoisse au fleuve noir, et il a complètement changé de genre en cours de route, comme ça. Mais on s'en souvient finalement comme détective de l'étrange avec Mephista. C'est ça qui restait, quoi, parce que c'était la plus récente, celle qui avait la meilleure diffusion. Mais en fait, il a commencé, comme détective de base dans les années 30.
Oui, j'ai les dates. Il a commencé en 37 comme détective privé classique. Mmh. Il a fini en 82 dans un Anticipation qui était en fait un an fantastique.
Oui, c'est un angoisse.
Et entre-temps, il a fait de la science-fiction dans des petits fascicules, il a fait des romans d'aventure, enfin des récits d'aventure dans des fascicules, il a tout fait.
Alors peut-être qu'en France, il n'y a pas eu cet engouement pour les auteurs, pour les détectives de l'étrange, c'est parce qu'en France, il y a une fascination pour une autre forme d'irrationnel qui est le crime. Il y a quand même Chéri Bibi, Fantomas, Roncambole, comme ça de mémoire, Arsène Lupin. Il y a dans le lectorat français de l'époque une fascination non pas pour l'étrange, mais pour ce qui s'oppose à la loi, qui est le crime. Et c'est pas l'étrange, mais c'est peut-être ce qui est de plus irrationnel. Alors, comment ça se fait, par exemple, que non,
ben, pour moi, il y a quand même des auteurs. Regarde Gaston Leroux, qui a fait à la fois du polar pur et du fantastique. Il n'a pas tellement mêlé les deux, en tout cas avec un détective de l'impossible. Rouletabille n'a jamais fait, d'enquête spécialement surnaturelle.
Oui.
Ben, c'est ce qu'on disait aussi avec Conan Doyle et Poe. Ils ont fait du fantastique, ils ont fait du polar, mais ils n'ont pas fait le mix entre les deux.
Non, justement, en France, il y a une littérature du crime où le héros est un criminel. Il y a des grandes figures, comme que ce soit le crime élégant comme Arsène Lupin ou l'irrationnel total comme Fantomas. Peut-être qu'on est peut-être plus attiré par ça. Et justement, tu serais pas tenté, toi, en titre de challenge, et c'est valable pour Olivier, pour Richard aussi, Vous n'avez pas tenté d'écrire un roman sur un grand criminel cette fois-ci, l'étrange qui défie les détectives, ouais, réinventer le grand criminel.
Il y a des détectives. Enfin, moi, je me suis pas mal intéressé aux serial killers, et donc il y a des criminels qui sont. C'est vrai qu'on
en. En tant que héros, en fait.
Oui, oui, c'est ça. En fait, c'est un peu le roman de gangster revisité. C'est un peu comme. Comment il s'appelle ce roman avec ce trader américain qui est une espèce de tueur en série et tout.
American Psycho.
Oui, American Psycho. Mais il y a des criminels, en plus des. Bon, il y a le grand cas de Jack l'Éventreur qu'on n'a jamais. Voilà, là, c'est quelqu'un qui commet des crimes horribles, mais qui reste, bon, malheureusement, dans ce qu'on pouvait trouver à l'époque, sauf que ça frappe l'imagination pour différentes raisons. Mais Jack l'Éventreur, qui était peut-être en réalité qu'un sinistre fou qui a été enfermé ou qui s'est tué tout seul, et que on ne saura jamais. Quoi, ou un extraordinaire criminel, on ne saura jamais. C'est très bien parce que la mythologie est restée complète. Mais il a quelqu'un qui a généré carrément une littérature quoi, autour de lui. Un vrai criminel qui, lui, alors, est devenu acteur de science-fiction, enfin, d'acteur. Un personnage de science-fiction, de fantastique, d'innombrables romans policiers, qui a croisé la route d'innombrables personnages connus de la fiction, de la réalité.
Là, on a un peu étrange qui échappe.
Mais lui, il a tout fait. Mais si on regarde bien le traitement des faits divers dans les journaux, moi j'adore ces journaux fin de siècle, enfin fin 19e, début 20e, avec des premières pages magnifiques et tout. Mais le crime et les trucs bizarres comme ça, mais des comportements bizarres, c'était pas. Mais ça fascinait tellement les lecteurs. Je suis même un jour, j'ai acheté une reliure d'un supplément littéraire. On parlait de pièces de théâtre, je ne sais plus duquel de journal. Et toutes les couvertures, enfin toutes les premières pages et la dernière, c'était l'assassin de machin en train de poignarder dans la rue une femme. C'était supposé être un supplément littéraire. Mais même là, ils en rajoutaient. Il y avait une fascination pour le crime violent, les trucs invraisemblables. Même des accidents devenaient fantastiques.
Il y a eu le Grand Guignol.
Les journaux, l'avantage, c'est que c'est du grand format. Les couvertures du Petit Parisien, choses comme ça. C'est extraordinaire. Donc il y a une fascination pour ça. Mais c'est vrai qu'il y a.
Je trouve que la littérature d'aujourd'hui, justement, elle est beaucoup accentuée. Enfin, elle se focalise beaucoup, justement, sur les personnages de serial killer. Non, c'est devenu le personnage diabolique par excellence.
La démesure d'un Fantômas.
Oui, mais alors par contre, le côté Arsène Lupin ou Fantômas, c'est qu'ils ne sont pas si diaboliques que ça, ces personnages-là. Ils ont un côté, au contraire. On a envie de s'identifier à ces personnages. Arsène Lupin, on est content quand il va voler le riche. Fantômas, on est presque heureux de toutes les faux semblants qu'il va semer autour de lui. Donc, c'est des gens dans lesquels on a envie de s'identifier. D'ailleurs, on s'identifie au personnage du soi-disant méchant dans Fantômas et Arsène Lupin. Le personnage du criminel à la serial killer, c'est quelqu'un dont on n'a pas forcément envie de s'identifier. On s'identifie à la figure du flic. Par contre, effectivement, il y a tout un aspect du fantastique maintenant qui passe par ce personnage difficilement cernable qui est celui du serial killer, qui devient une figure diabolique comme on pouvait les écrire autrefois, c'est-à-dire tout d'un coup il y a une dichotomie entre le bien et le mal, le flic ou le détective est celui qui va combattre autre chose qu'un criminel, il va combattre quelque chose qui est de l'ordre du mal avec un grand M. Donc ce sont des personnages, moi par contre je trouve qu'ils sont assez fréquent aujourd'hui, aussi bien à la télé que dans la littérature. On aime beaucoup ce type de méchant sanguinaire qui va tuer pour des raisons qui sont toujours très obscures.
Mais quelqu'un comme Dexter, par exemple,
voilà.
On dépasse ce stade-là où c'est
et qui est détective.
Alors, il est lui-même tueur en série et justicier.
Mais c'est la force de la série, justement.
Hannibal Lecter finit.
Ah, justement, voilà. Oui. Justement, je pensais exactement à Thomas Harris. Est-ce que justement avant l'étrange c'était un autre monde, l'inconnu, un peu comme Arthur Macken et le Grand Dupont, une ouverture vers l'ailleurs. Et est-ce que c'est pas plus inquiétant maintenant que l'étrange ce soit celui qui est vivant, qui est parmi nous? Est-ce que finalement des personnages comme les enquêteurs du FBI dans les romans de Thomas Harris ne sont pas eux les nouveaux enquêteurs, les nouveaux détectives de l'étrange?
Est-ce qu'on peut appeler ça de l'étrange à ce moment-là? C'est plus l'horreur quotidienne, malheureusement.
L'étrange est dans le cerveau, en fait.
C'est plus surnaturel.
C'est justement dans qu'est-ce qui se passe dans le cerveau de peut-être de ces personnages-là qui
a un côté irrationnel. Un profiler, on lui attribue dans des histoires des pouvoirs quasi surnaturels. À force de vouloir se mettre dans la... En plus, c'est un vieux truc de se mettre dans la peau du tueur. Mais c'est vrai que la police scientifique dans les séries, même comme les experts, ça devient presque de la magie. Ça paraît tellement. Ils arrivent à retrouver un criminel parce qu'il y a une molécule, je ne sais pas. Pour la plupart des gens, on touche à la magie. Et les profilers, c'est la magie mentale. Dans la fiction, on a l'impression que. C'est comme s'ils voyaient à distance, puis finalement se mettre à la place et tout. Mais c'est de la magie. C'est le pouvoir psy, quoi. C'est la parapsychologie. On leur attribue des pouvoirs de détective de l'occulte. Le profiler, c'est assez évident, je trouve. Pour les policiers, les enquêtes polyscientifiques, c'est ce que disait, 100 000 fois, mais Clark, avec son histoire, qui disait que quand il avait dit que la science poussait un certain niveau devient indiscernable de la magie. Quand on voit des séries comme ça, comme les experts et compagnie, ils jouent là-dessus. Ça devient, c'est plus comme un des mortels, quoi. Ils sont là, leur équipe et tout, ils ont leurs petits problèmes de mortels, mais à côté de ça, avec leurs appareils, leurs hologrammes, machin et tout comme ça, c'est presque des détectives de l'étrange, quoi.
Mais quand on disait au début de la conversation que les détectives de l'étrange, quand on citait les tout premiers de l'histoire, on se rendait compte qu'ils étaient tous en fait médecins en général, donc scientifiques, et qu'on n'est pas loin de ça. C'est-à-dire qu'en gros, effectivement, dans la littérature policière classique, le détective est en général soit journaliste, soit amateur, c'est-à-dire qu'il est il est riche, rentier, et il occupe le vide de ses journées à enquêter sur des morts les plus incroyables possibles. Dans le domaine de l'étrange, c'est effectivement des médecins. Ils ont une activité, ils sont médecins, donc scientifiques, donc ils ont un rapport au réel qui est de l'ordre de l'explication rationnelle des choses. Et pour eux, à la limite, le surnaturel n'est pas comme un monde qu'on ne peut pas comprendre. Ils vont essayer d'appliquer à l'irrationnel une méthode scientifique, comme si, en fait, l'autre monde, l'au-delà, pouvait être décrypté de la même façon que le réel pouvait l'être. Et on n'est pas loin du du scientifisme victorien dont tu parlais au départ, qui avait comme ça l'ambition de tout comprendre à la base. Je pense que les détectives de l'occulte, qui est au départ lui aussi victorien, il a l'idée de comprendre l'irrationnel, ce qui nous échappe, ce qui nous fait peur, et pouvoir le brider, le comprendre et en tout cas faire en sorte qu'il soit plus dangereux. Carnacki était médecin, non?
Je sais plus. Carnacki, c'est une bonne question.
En tout cas, il me semble que s'il n'est pas médecin, je ne crois pas qu'il soit rentier, amateur.
Non.
Il a une activité et je pense qu'elle est une activité scientifique. En tout cas,
Et le médecin, il était. Donc, si on revient à l'époque de Warren et compagnie, c'est la personne qui vit avec les gens qui apportent les histoires fantastiques aux histoires qui les. Les gens du COP, c'est les gens du. Donc, le médecin, c'est un personnage aussi qui est pratique parce que ça lui permet de faire rencontrer des gens de toutes les couches de la société, de tous les environnements, et donc de varier les problèmes qui peuvent se présenter. C'est un bon personnage au départ. Puis c'est un personnage abordable. On se confie à son médecin, au médecin de campagne et tout comme ça. C'est à lui qu'on va raconter. Et donc c'est lui sur qui va tomber.
Mais je pense à Carnacki parce qu'il y avait des résolutions d'enquête chez Carnacki où quand il était dans une maison qui était soi-disant hantée, il fallait qu'il chasse l'esprit qui est dans la maison, il avait une façon de résoudre le problème qui était très médicale, c'est-à-dire qu'il avait un peu, comme s'il avait sa trousse, il avait un diagnostic, il posait un diagnostic sur la situation, et pour ce diagnostic-là, c'est comme s'il avait son vidal, et il dit pour ça, il faut... Telle médication, et on va appliquer ça, et il va passer 2 jours dans la maison à faire ces trucs qui sont à la fois irrationnels, magiques.
Oui, mais c'est de la magie.
Mais qui est une magie comme une science.
Ouais, voilà. Parce qu'on peut pas, si on s'écarte de la recette, on va à la catastrophe.
On va à la catastrophe, et là on crée quelque chose, comme tu disais, qui est pire que le
c'est En fait, c'est très logique, ces histoires de détectives de l'occulte.
Il y avait même de la technologie, je me rappelle, Carnacki, qui faisait un pentacle électrique.
Ouais,
c'était quoi, quand même. Et il y avait un héros de Police Sébio dans les années 20-30 qui utilisait, je crois, une boussole qui détectait le surnaturel.
Très pratique. Mais les gens de la société métapsychique en Angleterre avaient des prétentions scientifiques. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils menaient une enquête sur une maison hantée, ils y allaient avec des processus qui se prétendaient scientifiques. Mais les processus scientifiques, c'est un peu plus compliqué que ce qu'ils appliquent.
Ouais. Les chasseurs de fantômes, ils n'ont que des matériels électriques.
Oui, voilà. Ouais, c'est vrai que c'est...
Oui, mais Carnacki, en fait, il y a des supercheries. Enfin, toutes les histoires ne sont justement pas des histoires. Je pense que la vraie ligne de fracture, en fait, elle est entre, finalement, la victoire de la raison et la victoire de l'irrationnel. C'est-à-dire que d'un côté, il y a l'irrationnel est irréductible. Enfin, il reste une part d'irréductibilité. On ne peut ni le maîtriser, etc. Et d'un autre côté, il y a une possibilité de le réduire, de tout expliquer, de tout annihiler.
Avec des combats tout le temps, par exemple, dans les défaites du rationnel, il y a Le Grand Dieu Pan d'Arthur Mackay, mais il y a eu des dégâts. Il y a Dr Jekyll qu'on évoquait, il y a L'Homme Invisible, où là, c'est le rationnel qui est obligé de lâcher du terrain. Des fois, l'irrationnel l'emporte, ou en tout cas le non-scientifique, ce qui échappe à la science.
Et puis des fois, on ne comprend pas, on ne peut pas expliquer, où il reste des zones d'ombre sérieuses, est-ce irrationnel ou ne laisse pas. Enfin, la raison échoue, d'une certaine façon.
Des fois, il y a deux explications. Il y a une rationnelle et une, tout à la fin, John Dixon Carr dans La Chambre Ardente. Mm. À la fin, on découvre qu'il y a une autre explication qui est totalement
irrationnelle.
Justement,
d'une certaine manière, là, c'est l'irrationnel qui l'emporte. À partir du moment où la raison n'arrive pas à réduire le problème parfaitement, l'irrationnel l'emporte.
Jack ?
Le cas du roman dont parle Marc est très intéressant. Parce que dans le livre original, John Dixon Carr, la première solution donnée est la solution irrationnelle. Et la solution rationnelle est donnée après. Ce qui fait qu'il n'y a pas, pour le lecteur anglo-saxon, il n'y a pas de doute. Quand Maurice Bernard-André a eu à traduire La Chambre Ardente en français, il a eu cette idée, qui est une idée simple mais géniale, d'inverser les deux chapitres. C'est-à-dire de donner l'explication rationnelle d'abord, par le détective habituel de Dixon Carr, et ensuite l'explication irrationnelle. Et John Dixon Carr a écrit à Maurice Bernard André en disant qu'il avait été très bête, qu'il aurait dû avoir cette idée. Voilà, donc là aussi, il suffit simplement d'intervertir pour que d'un seul coup, il y ait quelque chose qui prime sur l'autre. C'est assez intéressant. Il n'y a pas beaucoup de cas, quand même. Hein.
Non, pas trop.
Généralement, dans beaucoup de romans policiers français qui flirtent avec le surnaturel, il y en a eu dans les années 30, par exemple, avec L'Action Détective, il y a un auteur qui a fait ça très bien, qui était Édouard Le Tailleur. À chaque fois, il y a une explication rationnelle. On pense avoir affaire à un loup géant, et en fait, il y a une explication rationnelle. Il y a pas mal d'auteurs qui ont essayé, mais c'est extrêmement compliqué à maîtriser, hein, parce que le lecteur de romans policiers attend une solution rationnelle.
Ça fait peur à tout le monde, je crois, aux éditeurs ou aux producteurs de films, parce que regarde l'adaptation au cinéma du Lisier de La Chambre Ardente, il n'y a pas du tout d'explication irrationnelle.
Tout à fait. Oui.
Donc ils l'ont fait disparaître.
Il faudrait savoir si du Lisier avait pensé aux deux, ou scénariste, ce serait intéressant en tout cas de creuser un peu.
Oui, ça c'est aussi le propre de l'esprit français qui expliquerait peut-être aussi. C'est que l'esprit français est censé être soumis à la raison, contrairement aux Allemands ou aux Anglais, par exemple. Je ne sais plus qui est-ce que je... Je ne sais pas si c'est pas Courbet qui disait « Je peindrai des anges quand j'en aurai vu ».
C'est pas dans Le Château des Carpates qu'il y a finalement une explication
rationnelle.
Oui, tout à fait.
C'est dans Le Château des Carpates.
Oui, oui.
Bon, mais ça, Le Château des Carpates, c'était un espèce de clin d'œil littéraire de Jules Verne au roman gothique, où déjà, finalement, les fantômes, bien avant la fin du XVIIIe, où tout s'expliquait à la fin par des choses trappes, des fantômes, des machins, et ce qui était un truc vraiment Ça, c'est assez épouvantable à lire quand même. Parce que, il ne faut pas abuser. Quoi. Et, non, mais c'est vrai, mais à l'époque, c'était un actif comme ça. Démonter leur propre, et leurs propres histoires, finalement. Et Jules Verne, avait fait, c'était un clin d'œil. Quoi. Il a fait, c'était un jeu littéraire. Il y a des actions plus. Le secret de William Story, ce jeu, oui, par exemple, beaucoup plus inquiétant et tout. Là, c'est un truc, c'est un petit air steampunk, là, ouais. Mais le Château des Carpates, c'était aussi décevant. C'est, merde, qui vient encore nous servir le truc à la fin, j'en perds mon badge. C'est un truc qui est vraiment épouvantable. Je veux dire, quand il y a une belle histoire bien noire et tout, puis à la fin, ah ouais, c'était des trucs avec des poulies. Non, c'est trop dur.
Mais juste pour revenir à l'histoire des détectives de l'étrange, il y avait un aspect qui m'avait fasciné d'ailleurs, et c'est le plus ou moins le sujet du dernier bouquin que j'ai écrit qui n'est pas encore sorti. C'était que en lisant un petit peu tout ce qui avait un rapport avec les détectives de l'étrange, je m'étais rendu compte qu'il y en avait beaucoup parmi les grands maîtres détectives de l'étrange qui avaient appartenu à cette fameuse société secrète anglaise qui s'appelle la Golden Dawn, l'Aube Dorée. Et donc on a cité Algernon Blackwood avec son personnage de John Silence qui a fait partie de l'Aube Dorée. On a parlé d'Arthur McKen qui a un personnage de l'occulte dont j'ai oublié le nom, qui est l'un de mes préférés d'ailleurs, qui est distillé dans plusieurs recueils différents.
C'est Dyson.
Dyson,
comme l'aspirateur.
Dyson, exactement. Dyson et son narrateur et son acolyte Phillips. Donc McKen, Blackwood. Il y avait Aleister Crowley, qui est lui-même auteur d'une série mettant en scène un personnage qui s'appelle Simon If, qui est un détective de l'occulte. J'en oublie. Sax Rohmer, évidemment, qui, à côté de son personnage de Fu Manchu, avait également écrit un roman qui s'appelle La déesse aux yeux verts, je crois, quelque chose comme ça, avec un personnage de flic en Angleterre, qui est un détective de l'occulte. Et puis également une série mettant en scène un personnage d'antiquaire qui avait des plus
ou moins...
Voilà, je cherchais le nom.
Détective des rêves.
Exactement. Alors, qui n'est pas tout à fait un détective de l'occulte, parce que c'est... on retombe sur nos pattes en général à la fin, mais qui fraye un petit peu avec cet univers-là. Et donc, voilà, des grands noms de ceux qui avaient mis sur le devant de la scène des détectives de l'occulte avaient même appartenu à une société secrète. Alors ça m'avait amusé de me dire qu'en général, tout ce qu'ils pouvaient raconter, ils l'avaient soit vécu, ou en tout cas ils en avaient parlé, ou en tout cas ça faisait partie de quelque chose dont ils pouvaient s'entretenir en réunion. Je ne sais pas trop ce qu'ils pouvaient se dire, mais... Et voilà, et donc Dion Fortune, cette femme qui a écrit une série avec le docteur
Taller,
dans les années 30, qui était également membre de l'Aube Dorée et qui a écrit, qui a mis en scène un personnage détective de l'occulte. Bon, ce qui était rigolo,
et parti dans ton roman.
Alors, dans celui que j'ai fini, j'en tire parti, mais surtout, quelque chose que j'avais découvert moi en écrivant le premier, qui était Le Fantôme de Baker Street, c'est que Conan Doyle avait lui-même été sollicité pour faire partie de cette société secrète, et le personnage que j'avais mis en scène, qui s'appelle le docteur Kirkby, est en fait, j'ai changé le nom, mais était en fait un haut grade de la société secrète de la Golden Dawn, qui avait entrepris de faire rentrer Conan Doyle en 1898 dans cet ordre, secret. Et il raconte dans ses mémoires, Conan Doyle, qu'il avait été extrêmement impressionné quand ce type était venu chez lui, parce qu'il était venu accompagné de quelqu'un qui était lui-même un haut grade de la société secrète, et ils avaient fait un peu pour l'impressionner, ils avaient raconté des histoires de sorties en astral. L'un racontait qu'il avait voyagé au-dessus de l'Afrique en corps éthérique, etc. Et Conan Doyle avait tellement presque été effrayé par tout ce qu'il avait entendu dire qu'il avait dit non à cette proposition d'entrer dans l'ordre. Il avait dit, genre, je préfère rester comme je suis. Je pense que le spiritisme l'inquiétait moins, c'est-à-dire ce rapport presque direct avec l'esprit des morts, que cette société occulte dont on avait du mal un peu à cerner ce qu'il pouvait faire, mais qui a attiré un nombre d'artistes et d'écrivains au début du XXe siècle assez, assez impressionnante.
Et donc ton roman se passe sur dans la Golden Dawn?
Non, parce que comme ça se passe dans les années 30, celui-ci se passera en 37, donc on est au moment où le roi George VI est couronné, mais comme mon personnage Andrew Singleton est un lettré qui aime faire des recherches littéraires par ailleurs, à côté de ses enquêtes, il va être fasciné par le mouvement ésotérique de la Golden Dawn. Il va faire des recherches et ça va l'emmener à rencontrer dans un chapitre important Aleister Crowley, qui va lui remettre entre les mains quelque chose qui va lui servir pour d'autres aventures. Mais le personnage d'Aleister Crowley, par exemple, était un personnage quand même assez, assez fascinant, puisque c'était le grand mage noir, le grand mage anglais qui a défrayé la chronique et effrayé ses contemporains. Il y avait des campagnes de presse à son nom, enfin, pour le décembre, qui étaient extrêmement virulentes. Et il avait une vie enfin, absolument incroyable. Et c'est lui qui a donc avait acheté ce manoir sur les bords du Loch Ness, le manoir de Boleskine, qui a été acheté après par Jimmy Page et d'autres personnages qui étaient en mémoire d'Aleister Crowley, et qu'il avait donc utilisé ce manoir pour faire des invocations à Bramelin le mage, qui était soi-disant un grimoire dont il fallait utiliser les invocations avec beaucoup de précautions. Il fallait se purifier pendant 6 mois avant de commencer l'invocation, qui elle-même durait plusieurs mois. Donc je pense qu'il a dû passer 1 an dans son manoir à faire ce travail-là. Et il y a même après une théorie qui a dit que le monstre du Loch Ness, qui est apparu dans les années 30 en Écosse, donc dans le était peut-être non pas un monstre, un reptile dinosaurien venu de la fin des âges, mais peut-être une entité psychique liée aux élucubrations de Crowley, à toutes ces invocations qu'il avait faites 30 ans avant sur les bords du lac, et qui peut-être n'ont eu des conséquences que quelques décennies plus tard.
C'était donc pas un sous-marin.
Hélas, le temps passe. Alors, avant de donner la parole au. Enfin, elle a déjà bien été prise avec beaucoup de qualité. Une petite biblio à tous. Qu'est-ce qui. Les essentiels des Détectives de l'étrange disponibles, vous avez une idée ou...
Il y a les 3 anthologies de François Ducos qu'il a fait paraître ces dernières années au Terre des Brumes.
Ouais.
Bon, ça va de à peu près 1830 à 1925, à peu près. Donc, c'est vraiment. Pour ceux qui veulent connaître les origines du thème, ouais, avec notamment tous les grands auteurs dont on a parlé, les Aaron Merefis, il ne peut pas avoir de Blackwood, enfin il y a du L. Temin, enfin tous les grands auteurs de l'époque, sauf ceux qui ont été réédités à côté, comme Blackwood ou Hodgson. Et en plus, il y a des postfaces et des préfaces très érudites, donc ça vaut le coup de les lire.
Richard,
je cherche.
En BD aussi, je peux.
En BD, il y en a tellement.
Oui,
enfin, c'est des Sherlock Holmes, c'est les Harry Dixon de Richard, par exemple.
C'est les...
Oui, il y avait déjà, oui, il y a des Harry Dixon, oui, voilà.
Ben là, c'est une reprise. C'est, donc là, c'est vraiment la carte détective de l'étrange à 100%, c'est-à-dire que les intrigues sont toutes surnaturelles, il n'y a pas de de solutions alternatives ou choses comme ça. Là, c'est volontairement. D'ailleurs, dans l'avant-dernier, Harry Dixon rencontre Sherlock Holmes qui est en train d'élever des abeilles dans le Suisse. Et Holmes le prend au départ pour un véritable charlatan et tout comme ça. Et puis finalement, bon, après, il s'aperçoit, mais là, je me suis amusé, il s'apercevra que Dixon adopte une certaine forme de logique qui était comme la sienne, mais avec des résultats très différents et qu'il fallait, fallait donc accepter ce genre de résultats. Enfin, là, je me suis un peu amusé. Mais en fait, souvent, les histoires détectives de l'étrange, c'est distillé un peu partout, quoi, les nouvelles, on en trouve par-ci, par-là. C'est vrai que les 3 volumes de Terre de Brume, pour ceux qui ont de bons yeux, parce que Terre de Brume, ce serait bien qu'ils agrandissent le caractère de leur livre. Parce que bientôt, le surnaturel, ça va être d'arriver à les lire le soir. Ils sont excellents, c'est des super beaux livres, mais il faut avoir des yeux de martiens pour lire ça. Sans doute, les martiens doivent arriver à lire ça mieux que nous. Et, je sais pas, c'est... en fait, c'est très... Il n'y a pas de... Ben d'ailleurs, en Terre de Brume, ils ont ressorti les Carnacki aussi, il me semble.
Ils n'ont pas ressorti, c'est Gérard Doll qui est un grand auteur de pastiche, qui a repris Sherlock Holmes, qui a repris Harry Dixon.
Il y a une édition de Carnacki.
Il y a toutes les histoires de Carnacki et de Hodgson qui sont.
C'est ce qu'ils ont d'ailleurs, parce que ça n'a pas été réédité depuis Minéo. John Silence n'a pas été réédité, je crois.
Chez Rivage. chez l'édition Rivage, Les Aventures de John Saxon.
Ah oui,
le seul qui est, pourtant c'est mon préféré, le seul qui est super compliqué à lire, c'est Les Aventures de Dyson, d'Arthur Mackett, parce que c'est sur plusieurs recueils. Il y a une nouvelle dans le recueil, dans chaque volume, qui concerne les Dyson. Mais il est vraiment une idée d'éditeur, ça serait de sortir en un volume.
En omnibus, ça serait bon. Ouais. Et pour citer des titres plus contemporains, par exemple, très récents, il y a les deux titres de l'elfe détective Sylvo Sylvain de Raphaël Albert, plutôt, parce qu'il est français, qui sont sortis l'année dernière, cette année.
C'est très intéressant. Très bien. Ouais. Remarquable.
Mais là, il enquête sur du surnaturel, mais il vit lui-même dans un monde surnaturel. Donc, est-ce que c'est encore un enquêteur de l'impossible ou du surnaturel?
C'est la fantaisie, voilà. C'est plus tout à fait du fantaisie.
Parce que maintenant, on a un peu dérivé. Souvent, des fois, c'est les enquêteurs qui font des enquêtes normales, si on peut dire, mais dans un monde impossible, dans un monde surnaturel. Donc, est-ce que c'est encore un enquêteur dans l'impossible?
Il y avait Lord Darcy, déjà, dans le genre.
Ouais.
Ah oui, c'était bien.
Lord Darcy, c'était carrément dans un monde du chronique, un monde de science-fiction, mais où la technologie était remplacée par la magie.
C'est bien, ça.
Mais une bonne partie de la littérature de Beatlit, littérature de vampires, joue un peu avec les mêmes codes, parce que c'est l'histoire de « je suis la chasseuse de vampires » et tout, je suis le... D'ailleurs, maintenant, il y a aussi des détectives, il y a même des détectives vampires, il y a des vampires ou loups-garous et tout, mais ça fonctionne toujours un peu comme ça, c'est-à-dire je suis en train de traquer le démon machin qui est en train de faire quelque chose dans la ville, ou qui est en train de me pourrir la vie pour une raison ou pour une autre... en fait, c'est des espèces d'excroissance de détectives de l'occulte. La plupart des livres de Beatlit, c'est ça. Il y a quelqu'un, généralement une jeune femme super à la mode et tout, sauf que bon, ouais, il ne faut pas qu'elle sorte les nuits de pleine lune ou des trucs comme ça. Mais elle est Buffy, pour prendre le personnage qui est un des personnages qui a allumé la mèche, si on peut dire. Ben, ce qu'elle fait dans son... c'est pas des vraies enquêtes, parce que c'est vrai que même les détectives des soap opéras seraient meilleurs que à résoudre les énigmes que dans Buffy ou choses comme ça, mais c'est le principe il est le même, c'est je suis là, il y a un problème, il faut que je trouve des preuves que machin, parce que on attend que le maître nageur de l'école, en fait c'est un loup-garou à 16h, et puis qui est en train de pouvoir aller à mon copain qui est un vampire. Mais c'est devenu une espèce de, pas une dégénérescence, parce qu'il y en a des très bons, mais vu la quantité qui sort, c'est une branche bizarre des détectives de l'occulte, c'est la Beatlit, bien qu'il y ait de très très bons trucs dedans.
Il y a Jules de Grandin que vous n'avez pas cité.
Ah oui,
par la barbe de Bouguer, je l'avais
oublié. On l'a oublié. Et puis Denis Wesley, on n'en a pas parlé aussi avec.
Oui, avec Lord.
Comment il s'appelle, le Duc de Richelieu.
Le Duc de Richelieu,
voilà. Oui. Joué par Christopher Lee au cinéma. Joué par Christopher Lee au cinéma, Duc de Richelieu. Dans le panneau de l'Hierge de Satan, c'était qu'il avait
joué. Certains personnages de Lovecraft commencent une enquête avant de s'évanouir de théorie, commencent un petit peu des recherches en les
livres. Ça, c'est ceux qui ne sont pas fait dévorer entre temps par ce truc.
Oui, pour reparler de Jules Grandin, il avait eu une anthologie, c'était où? C'était au Fleuve Noir il y a quelques années. Ouais.
Bah, c'était François Ducos.
François Ducos, déjà. Voilà.
C'est des choses qu'on peut trouver chez les bouquinistes.
Oui, ouais, c'est. Parce qu'au départ, c'était pas. Je crois que j'ai eu un
télédocte. En masque aussi.
Ça a duré des années.
Il n'y a pas
grand-chose. Toutes les
choses ont été traduites, en fait.
Ah oui, il y a 150 nouvelles. Ouais. C'était l'auteur le plus publié dans Wertels. Il a fait du Jules Le Grandin.
Et il est presque inconnu.
Alors qu'aux États-Unis, c'est vraiment un personnage, c'est réédité en intégrale et tout. Puis surtout, aux États-Unis, ils ont réédité d'autres personnages. Il a un docteur aussi qui est, le nom m'échappe, mais dans les années 20, qui faisait des enquêtes aussi de temps à autre, qui mangeait dans le surnaturel. Il a même fait les mémoires parce qu'il travaillait pour une revue, Silvery Queen travaillait pour une revue de Pompe Funèbre. Mais une revue, il a fait beaucoup de. Il travaille beaucoup dans l'édition, dans des revues spécialisées, je sais plus comment on appelle ça, des revues de société, comme ça. Et donc, il avait fait une série sous un autre nom, où c'était les mémoires d'un directeur de. C'était des petites nouvelles, comme ça, mais c'est pareil, il y en avait, je sais pas, 60, on dit. Des petites nouvelles, comme ça, des mémoires d'un directeur de pompe funèbre, avec des trucs bizarres qui se passaient. Et ça, c'est beaucoup moins connu, c'est plutôt sur la fin de sa carrière. Quoi. Ça a été réédité récemment, tout d'un bloc à des prix hallucinants aux États-Unis. Mais c'est vrai que Jules de Grandin, c'est un des plus increvables, parce qu'alors lui, vraiment, si on prend Harry Dickson, il y a pratiquement les fascicules, mais c'est pas toujours du fantastique. Mais bon, il y a un nombre qui est quasiment équivalent. Mais Jules de Grandin, un personnage qui a tenu la route comme ça, puis c'était le fa... En 1923, c'est devenu le favori, enfin, 25, des lecteurs de Vertel, c'est en 20 ans après, c'était toujours. Ça avait changé comment ça s'appelle, de lectorat, mais c'était toujours. Et pourtant, quand on les lit, c'est quand même pas. C'est quand même pas de la littérature. Il a fait mieux ailleurs. Hein, je veux dire, c'est, une fois, c'est écrit vraiment plus.
Ouais. C'est juste le problème de Jules Le Grandin, c'est que le temps, enfin voilà, aller relire, c'est.
Dans Wendigo,
ça n'a pas la poésie des nouvelles de Macken.
Mais en fait, c'est parce qu'il en écrivait trop. Il les écrivait. C'est ça au kilomètre, quoi. Il fallait livrer, quoi. C'était devenu un personnage passe de fascicule. Je vais en parler, puisqu'on parle des pulps. Il y a un pulp qui a existé, qui s'appelait Ghost Stories, qui est publié entre 1926 et 31, je crois, et qui était le seul pulp qu'on peut considérer comme étant un pulp de détective de l'occulte. C'est-à-dire, c'était le sujet. Le sujet, c'était. Non, c'était camouflé. Le sujet, c'est. On va racontez-nous vos histoires de fantômes, machin, et tout comme ça, vos expériences vécues et tout. Et en fait, c'était un pulp normal, à grande diffusion. Et donc, pour une histoire qu'envoyaient les lecteurs en disant j'ai rencontré un spectre chez moi, et tout comme ça, tout le reste, c'était des faux camouflés ou de la fiction avérée, quoi. Et donc, c'était que des histoires. Tel détecté, l'histoire du loup-garou, de je ne sais pas quoi, raconte, tel qu'il a été raconté à un tel qui était enquêteur à la société de parapsychologie, des trucs comme ça, ou le docteur machin. Et en fait, c'était que des histoires pratiquement de détectives de l'occulte. À part les fausses histoires ou les vraies histoires personnelles. C'était la ligne et d'ailleurs ce qui était rigolo c'est que le pulp se mettait que les titres, il n'y avait pas de nom d'auteur sur les couvertures, mais c'est que des titres à couleur qui étaient en fait les titres des nouvelles, des romans, il y avait des romans entiers et c'était que des histoires de détection. Il y avait un style ghost story où c'était une histoire racontée par quelqu'un d'autre qui avait suivi l'enquête et tout. Et c'est comme ça qu'on repère dans les pubs, quand ils ont coulé, on a repéré les auteurs, ce qu'ils avaient revendu, qui n'était pas publié aux autres pubs, parce que la formule, elle a mis facilement un an à disparaître, comme ça, on voyait les textes pas publiés dans Ghost Story. C'est un très beau pub, c'est un pub très difficile à trouver maintenant, et c'est un pub de détective de l'étrange. Moi, c'est le seul que je connaisse, qui était vraiment là-dessus.
Ça ferait une belle conclusion, donc un pulp entier
détective de l'étrange.
Ouais, ben merci beaucoup et puis bonne continuation de Sèvres. Merci.